Laudetur Jesus Christus.
Te Deum à la Basilique Saint-Pierre pour clôturer l'année 2024. François est revenu sur les chantiers de Rome qui ont préparé cette année jubilaire, invitant chacun à œuvrer dans les chantiers de son cœur. Dans ce journal également, reportage en Syrie qui termine l'année avec, comme depuis le début du conflit en 2011, des pénuries de gaz et d'électricité. Nous ferons également le bilan de la riche année politique et diplomatique à Taïwan. Et enfin, déjà un pas dans 2025, nous entendrons les vœux de l'archevêque de Garoua au Cameroun, alors que le pays cette année a été frappé par de graves inondations.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous pouvez l'entendre, le traditionnel Te Deum est célébré actuellement à la basilique Saint-Pierre par le pape François. Il est en train de se terminer même. Une prière adressée en action de grâce pour cette année préparatoire au jubilé 2025. Dans son homélie tout juste prononcée, le Saint-Père est revenu sur les travaux qui ont redoré les rues et les monuments de Rome, appelant chacun à se tourner vers le chantier de son propre avenir et à y inviter Dieu pour qu'il transforme ce qui n'est pas digne de ses enfants, Jean-Benoît Harel.
Oui Marine, voici l'heure de l'action de grâce, a assuré à l'instant le pape François dans la basilique vaticane qui accueille depuis une semaine touristes et pèlerins pour passer sous la porte sainte. Au cours de son homélie, lors de ce Te Deum et de ses premières vêpres de la solennité de Marie Mère de Dieu, le Saint-Père s'est arrêté sur les chantiers qui ont restauré la beauté de la capitale italienne. Rome est appelée à accueillir tout le monde pour que tous se reconnaissent enfants de Dieu et frères les uns les autres, estime François, alors qu'une trentaine de millions de pèlerins sont attendus en 2025. Accueillir tout le monde, c'est-à-dire des hommes et des femmes du monde entier, catholiques et chrétiens d'autres confessions, croyants de toutes les religions, chercheurs de vérité, de liberté, de justice et de paix, dans le but de marcher ensemble sur un des chemins de l'espérance, celui de la fraternité.
Si, l'espérance del mondo sta anche nella fraternità. Ed è vero.
L'espérance du monde réside aussi dans la fraternité, explique François. Une fraternité qui s'appuie ni sur une idéologie, ni sur un système économique, ni sur un progrès technologique, mais sur Jésus, que Marie nous montre, le Fils incarné, envoyé par le Père pour que nous devenions tous ce que nous sommes, c'est-à-dire des enfants du Père qui est aux cieux, et donc des frères et des sœurs entre nous. Alors à l'image des tractopelles, des grues et des engins de chantier qui ont embelli la ville de Rome, François appelle chacun à œuvrer dans le chantier de son cœur et à inviter Dieu à restaurer ce qui est indigne de cette fraternité humaine afin que chacun puisse vivre en frères et sœurs.
Merci beaucoup Jean-Benoît Harel pour toutes ces précisions. Et c'était il y a 2 ans, vous vous en souvenez, le 31 décembre 2022, disparaissait Benoît XVI. Une messe de suffrage a été célébrée ce matin dans les grottes vaticanes par le cardinal Corre. Devant la sépulture de Benoît XVI, il a salué sa clarté théologique et son attention constante à la vérité de la parole de Dieu. Les détails sont bien sûr à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.com. Et en ce soir de réveillon, aucun répit sur le front ukrainien. Des frappes russes ont visé la région de Soumy dans le nord, mais aussi dans la région de Kiev. Et Moscou annonce de son côté avoir détruit 68 drones ukrainiens dans la région de Smolensk, vers la frontière biélorusse. Des combats qui contrastent avec le discours du nouvel an de Vladimir Poutine. Alors que l'extrême-orient russe est déjà entré en 2025, nous sommes sûrs que tout ira bien, estime le dirigeant russe, qui marque que cette année, l'année prochaine, c'est 25 ans au pouvoir. Direction maintenant la Syrie, qui pour la première fois depuis 55 ans s'apprête à vivre une année sans la famille Al-Assad au pouvoir. Le gouvernement de transition continue de se construire. Aujourd'hui, le chef de la branche militaire du groupe radical islamiste Ayatollah al-Sham a été nommé ministre de la Défense dans le nouveau gouvernement de la République arabe syrienne. Mais en attendant la reconstruction politique mais aussi logistique de la Syrie, le pays est toujours dans une crise énergétique climatique paralysante. Depuis 2011, les conflits ont détruit les infrastructures, l'accès à l'électricité, au gaz est réduit. Et aujourd'hui, à Damas, les foyers n'ont que 2 heures d'électricité par jour. Et malgré les promesses du nouveau pouvoir syrien, la situation sur le terrain reste critique. Le reportage de Mohamed Erami.
Dans le quartier de Jalamana, à l'est de Damas, Saïd, 40 ans, vit dans un appartement bien équipé. Carrelage impeccable, four, réfrigérateur, machine à laver, mais rien ne fonctionne. Sans gaz ni électricité, tout est inutile. Les coupures laissent sa famille dans le froid et l'obscurité, contraignant chacun à improviser pour le quotidien.
Impossible de conserver les aliments au frigo car ils s'abîment. On ne peut pas remplir non plus nos réserves d'eau. Et nous ne pouvons pas laisser les enfants prendre une douche car l'eau est froide. Franchement, on souffre beaucoup de ce problème. On espère que Dieu va le résoudre et on veut vivre une vie normale.
Non loin, Aitem, propriétaire d'un supermarché, lutte pour préserver ses marchandises. Ses réfrigérateurs fonctionnent à l'essence grâce à un générateur, un luxe coûteux. Face aux coûts élevés, il réduit ses horaires et risque de fermer définitivement, explique l'homme.
L'électricité est disponible de midi à 13h, ensuite elle est coupée jusqu'à 18h, puis ça revient une heure et ça coupe de nouveau jusqu'à minuit, puis à 1h du matin un petit peu et ensuite c'est terminé. Comme les marchandises se gâtent rapidement dans le magasin, nous n'achetons pas beaucoup de stock, mais seulement ce que nous pourrons vendre à temps.
En attendant les promesses d'un meilleur approvisionnement énergétique, les Syriens restent prisonniers d'un quotidien où la lumière et la chaleur sont devenues des privilèges rares.
Un reportage à Damas de Mohamed Erami. Personne ne peut arrêter la réunification avec Taïwan. Les propos sont du dirigeant chinois Xi Jinping lors de son discours à la Nation du Nouvel An cet après-midi. Les Chinois des deux côtés du détroit de Taïwan sont une seule famille, dit-il. La Chine et Taïwan coexistent depuis 1949 avec deux gouvernements distincts, mais Pékin revendique l'île comme une partie intégrante de son territoire. Cette année fut marquée par des confrontations régulières entre la Chine continentale et le président taïwanais Lai Ching-te. On fait le bilan avec, à Taipei, Suzanne Duroy.
L'année 2024 aura été marquée par une augmentation des manifestations militaires chinoises dans le détroit de Taïwan, si fréquentes qu'elles en deviennent presque banales. Au pouvoir depuis seulement 7 mois, le président taïwanais Lai Ching-te, la bête noire de Pékin, a déjà dû faire face à 2 manœuvres militaires et un déploiement massif de navires chinois. Dans ce contexte de relations tendues, l'élection du président américain Donald Trump en novembre renforce l'inquiétude. N'a-t-il pas plusieurs fois répété que Taïwan devait payer les États-Unis pour sa défense ? La confiance des habitants à l'égard de leur précieux partenaire s'érode. L'année 2025 s'annonce nébuleuse. Quel dialogue Taïwan pourra-t-il tenir avec Trump ? En attendant l'investiture du président Trump le 20 janvier, Taïwan se prépare déjà. Une discrète délégation taïwanaise s'est rendue en décembre à Washington pour échanger avec des membres du cercle de Trump. À Taipei, Suzanne Duroy pour Radio Vatican.
2024 fut une année record en termes de précipitations et d'inondations et le continent africain fut particulièrement touché. Le Libéria, la Guinée, mais aussi le Tchad ou le Cameroun où les fortes pluies de juillet ont fait au moins une vingtaine de morts et plus de 230 000 sinistrés. De nombreuses maisons et des écoles ont été détruites. Interrogé quant à ses vœux pour l'année 2025, c'est donc tout naturellement que Monseigneur Faustin Ambassa Jodo, l'archevêque de Garoua, nous dit espérer une météo clémente, vitale pour les populations et les récoltes. On l'écoute.
Nous pouvons souhaiter une première chose, c'est une pluviométrie équilibrée, suffisante, mais équilibrée, parce que nous sommes dans une zone agricole où nous dépendons fortement des pluies. Même l'élevage qui se fait dépend aussi de ces pluies parce que les animaux mangent les herbes. Et si les herbes ne poussent pas en quantité suffisante, cela impacte aussi la vie des troupeaux, des animaux. Un deuxième souhait concerne la sécurité. Nous sommes dans une zone à très forte insécurité. Nous espérons et nous souhaitons que les foyers d'insécurité s'estompent considérablement et qu'il y ait beaucoup plus de sécurité.
Des propos recueillis par Christian Lozambé. Avant de se quitter, un mot sur le programme de demain au Vatican. À 10h, le pape célébrera en la basilique Saint-Pierre la Sainte Messe pour la 58e journée mondiale de la paix. Et puis à 12h, Angélus, place Saint-Pierre cette fois. Des événements à suivre en direct bien sûr et traduits en français sur notre site internet. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin d'année 2024 avec une pensée toute particulière pour les personnes seules ou en souffrance ce soir. Et on s'entend dès l'année prochaine.